France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
À quoi ça sert d'apprendre ? Puisqu'il suffit désormais de poser la question à une IA pour avoir la réponse. À quoi ça sert de mémoriser quand il suffit d'un clic ? Évidemment, ça devient peut-être un peu plus compliqué de répondre à ces questions-là. Qu'on le veuille ou non, l'IA est dans nos vies, dans les salles de classe. Penser qu'on peut l'interdire ou l'ignorer n'a aucun sens. Il y a des profs, c'est peut-être vous, qui ne donnent plus de devoirs à faire à la maison, parce que vous savez très bien que c'est un boulot que ChatGPT fait très bien, un autre d'ailleurs également, et peut-être même à peine réécrit ensuite. Il y a des enseignants qui reviennent à l'oralité, et on en parlera. Raconte-moi ce que tu as retenu. On ne parle pas seulement des enfants, hein. Ce sont des enseignants de jeunes adultes que nous avons autour de la table, des jeunes adultes qui souvent refusent la contrainte à prendre l'IA. Synthétiser, c'est une contrainte, mais justement, il faut peut-être imaginer une manière différente d'évaluer les élèves et aussi de leur donner envie d'apprendre. La clé est peut-être aussi de se dire que puisque l'outil est là, on ne peut pas faire sans, il faut le faire entrer de plein pied à la fac ou à l'école et apprendre à le maîtriser. En faire un outil pédagogique qui facilite la tâche sans la faire à la place des élèves, qui fait qu'on ne confie pas son cerveau à l'intelligence artificielle, on lui demande de nous emmener à un point qui permettra de réfléchir quand même. Après tout, on a longtemps interdit les calculatrices, souvenez-vous, pendant les examens, notamment, les devoirs sur table notamment, aujourd'hui c'est admis, et l'évaluation elle vient sur autre chose. Pour l'instant, les enseignants sont peut-être un peu perdus, mais comment je fais, moi, désormais, pour enseigner ? Les parents aussi, d'ailleurs, et si mon fils n'avait pas de cerveau ? Les élèves, eux, ne voient pas pourquoi ils prendraient 4 heures à lire un livre quand leur voisin de classe a mis un PDF dans une intelligence artificielle. Il va donc falloir que ces mondes-là s'accordent, et sans pour autant se contredire les uns les autres, il faudra que l'IA soit un allié dont on découvre à peine les possibilités. Si le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Rémi, vous êtes dans les Yvelines, bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir,
on vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Moi, je suis enseignant depuis pas mal d'années, et ce que je ne suis pas du tout pro-IA, hein, mais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que je me dis que finalement, les élèves qui peuvent travailler avec l'IA à la maison, finalement, ça va être des élèves qui vont être aidés. Or, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents, ça peut être vraiment positif. Parce que dans un monde où finalement, dans un monde scolaire, pardon, où les contrôles continuent à être de plus en plus importants, moi, depuis quelques années, je remarquais une vraie injustice au niveau des devoirs faits à la maison, bien sûr, entre ceux qui sont aidés par leurs parents et ceux qui ne le sont pas. Donc, voilà.
Est-ce que vous repérez... Vous êtes prof de français, Rémi, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous savez repérer, j'imagine que oui d'ailleurs, le devoir, plutôt l'aide, c'était celle des parents, et l'aide, c'était celle de ChatGPT. Enfin, est-ce que ça saute aux yeux au stade où on en est ou pas ?
Disons que, ouais, que ce soit il y a des tournures qui sont effectivement, qui reviennent quand c'est l'intelligence artificielle, mais quand c'est les parents aussi. Enfin, on repère assez rapidement ces choses-là, donc on ne va pas interdire les parents, par exemple. Mmh. Moi, ça fait pas mal d'années que je ne demande plus de devoir à la maison. En fait. Donc, quand j'en demande, je mets un coefficient beaucoup moins important. Mmh. Mais voilà, est-ce que... Moi, je pense que pour des élèves qui n'ont pas la chance d'être aidés, ça peut être intéressant. Mmh.
Merci.
De travailler avec ChatGPT.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Merci pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table. Il y a Lucie Jacquet-Malo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure agrégée en mathématiques à l'Université Picardie-Jules Verne et vous êtes chef du projet IAG Souveraine pour l'enseignement justement supérieur et la recherche. François Dadéhi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur et président du Learning Planet Institute. Vous êtes co-auteur d'un rapport justement sur l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques. Et bonsoir Corentin Célin.
Bonsoir.
Alors d'habitude vous êtes notre américaniste Corentin.
Oui, que fais-je ici ?
Mais alors vous êtes surtout professeur d'histoire en réalité, c'est ça qui nous intéresse, en classe préparatoire en l'occurrence au lycée Carnot à Dijon. Et ce qui est intéressant aussi c'est de comparer l'usage et ce qu'en font les élèves quand on parle de mathématiques et quand on parle d'humanité, parce qu'il y a évidemment des choses très différentes. D'abord, Lucie Jacquet-Malo, comment vous réagissez à l'appel de notre ami Rémi. Après tout, peut-être que ChatGPT, d'une certaine façon, en tout cas l'intelligence artificielle, remet à niveau les aides des élèves, puisque certains avaient leurs parents derrière et d'autres ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'on dit de cette remarque ?
Oui, tout à fait. Alors, bonsoir Rémi, hein, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on pourrait voir l'IA et les IA génératives comme une aide qui permettrait de combler les inégalités qui étaient liées au statut social, par exemple, d'un élève qui pouvait se faire aider de ses parents ou pas. Et en réalité, il y a quand même un danger auquel il faut faire très attention, c'est que utiliser ChatGPT ou utiliser une IA générative, ça s'apprend.
Ça s'apprend. Et puis surtout, pardonnez-moi, mais les parents, ils expliquent. L'IA, elle fait tout toute seule. Enfin, je veux dire, donc est-ce que vraiment ça aide l'élève? Est-ce qu'il a mieux compris ce qu'il a fait parce qu'il a eu l'aide de l'IA? J'ai un peu un doute, moi, là-dessus.
Tout à fait, pas forcément. Pas forcément, et alors comme on le voit justement dans un rapport qui a été rédigé par M. François Taddeï et Frédéric Pascal, dont peut-être vous nous parlerez François, il y a quand même un nombre considérable d'étudiants ici qui utilisent une IA générative à des fins de moteur de recherche. Mmh. Ça c'est un mésusage par exemple.
Ouais.
Donc en fait on a besoin d'être formé aux usages des IA, et à ce moment-là, une fois qu'on a des élèves qui seront formés aux usages des IA, ils seront en capacité de se faire aider par une IA pour mieux réfléchir.
Parce que François Taddeï, en effet, c'est ce qui ressort d'ailleurs de votre rapport, quasiment la première phrase, enfin l'idée c'est de dire de toute façon c'est là. Donc soit on fait avec, soit on se trompe. Mais essayer de faire sans, ça n'a aucun sens au moment où on se parle en fait.
Oui, tout à fait. C'est clairement là, et c'est clairement dans les usages des jeunes et des professionnels et de l'ensemble de la société. Donc, que l'école soit le dernier ou l'université soit le dernier endroit où on ne l'utilise pas, ce serait bizarre. Par contre, apprendre à l'utiliser intelligemment, en développant au passage son esprit critique, son esprit de synthèse, sa capacité à utiliser à voir les limites de ces machines. Par exemple, si vous lui demandez l'heure, c'est un mauvais usage. Si vous lui demandez même un calcul, c'est pas un bon usage. Donc, ça savoir quand l'utiliser et en connaître ses limites, je pense que c'est extrêmement important. Et savoir en même temps les limites aussi de nos propres cerveaux.
Mais ça veut dire qu'on en fait quoi, en fait? Parce qu'on posera la question à Corentin dans un instant, mais si on l'utilise pour un devoir, je ne sais pas très bien le sens que ça a, mais du coup, on l'imagine pourquoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on lui demande qui vous permettra, vous, l'enseignant, de commencer, au fond, l'apprentissage sur la marche supérieure? Parce que, au fond, vous aurez laissé à l'IA le soin de s'occuper des scories, en quelque sorte.
Mais par exemple, on peut inciter les élèves ou les étudiants à utiliser l'IA pour avoir une première approche, critiquer la réponse que l'IA leur fait, et en classe, débattre des limites de la machine et du point de vue des élèves, et d'organiser un débat d'intelligence collective augmenté par l'intelligence artificielle.
Vous imaginez faire ça dans vos salles, Corentin Célin, vous, ou pas? Au moment où on se parle, peut-être que vous le ferez dans 5 ans, mais là, demain,
Demain, non. Ni demain ni après-demain, mais pour une simple raison. Donc, étant enseignant en classe préparatoire, donc une section post-bac, qui est censée préparer à des concours. Donc, on a des programmes, on a des programmes qui sont fixés par les écoles. En l'occurrence, moi, bon, c'est les écoles normales supérieures de Paris ou de Lyon. Et évidemment, notre priorité absolue, c'est de faire le programme et de tenir les programmes. Donc, ce qui veut dire qu'on a, par rapport à ce qui vient d'être dit, on a une latitude d'apprentissage pour soi déjà, parce qu'il faut bien se rendre compte que, et là je parle pour moi, je suis un professeur de sciences humaines avec une formation littéraire, mes compétences mathématiques, si jamais elles ont existé, pas vraiment, elles sont très lointaines. Pour comprendre l'architecture, pour comprendre ce que c'est l'architecture, il faudrait que je me remette à la page et que je me forme. Et par ailleurs, pour répondre aussi à votre question, pour arriver à ces bons usages, il faut apprendre, il faut se former. Or, moi, je suis un peu dans une forme d'entonnoir, puisque en même temps, chaque année, non, je dois former des gens à des concours qui se passent encore avec un stylo, un crayon, et tout le défi qui se présente à moi, enfin pas qu'à moi, c'est de savoir comment on passe d'un modèle à l'autre et comment on fait. Et ça, je sais pas, non.
C'est une vraie question, Lucie Jacquier-Malo. Si non seulement il faut que les élèves apprennent l'usage, soient meilleurs dans la maîtrise, mais il a raison, Corentin Célin, il faut aussi que ce soit accompagné pour les enseignants. Est-ce qu'on en prend le chemin?
Tout à fait. On en prend le chemin, on commence à en prendre le chemin. Moi, à l'université, je forme les futurs enseignants et on travaille au travers d'usages avec des IA génératives sur comment penser les choses et comment démontrer les choses. Alors moi, je suis prof de maths.
Typiquement, par exemple, voilà. Est-ce que l'IA répond à l'équation? Donc c'est bête et méchant, mais vous, ce que vous avez besoin de savoir, vous, la prof de maths, c'est comment on est arrivé à cette conclusion-là.
Tout à fait.
Est-ce que l'IA donne ça, ou est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il donnera de toute façon que le résultat? Donc ça n'empêche rien, s'agissant du raisonnement, en fait.
Il peut donner le cheminement, le raisonnement et tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est ça aussi la difficulté pour les enseignants. C'est-à-dire que si on va demander une démonstration de tel théorème, évidemment que ChatGPT va la donner. Elle va être fausse ou elle va être bonne, selon les réponses. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que disait François tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le débat qu'on en fait autour. Mmh. À partir du moment où, avec les étudiants ou les apprenants, on a réussi à utiliser une IA générative pour dire « réponds-moi à telle question », on a des interactions entre pairs. Et en fait, avoir des interactions entre étudiants ou entre élèves, c'est la seule chose dont on puisse rêver pour pouvoir faire monter en compétences nos élèves. C'est qu'une modalité, un prétexte, en fait.
Ce qui m'inspire une question, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Nala, qui nous attend au standard. Bonsoir Nala.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Mais très bien, on vous écoute.
Merci. Oui, alors moi je voulais revenir sur le fait que, je crois que vous l'avez déjà mentionné un peu, mais chercher, oui, plutôt à responsabiliser en fait les élèves, sans chercher forcément à sanctionner ou à éviter à tout prix ce qu'ils utilisent en fait l'intelligence artificielle. Parce que je pense que ce serait peut-être plus efficace, enfin en tout cas pour moi, je suis... Récemment, j'ai obtenu un master, donc je suis étudiante, et je sais que, par exemple, je sais que rendre, par exemple, une copie faite par ChatGPT, j'aurais pas eu cette satisfaction personnelle que j'aurais eue si j'avais faite moi-même. Enfin, voilà. Donc, leur faire comprendre, dès le plus jeune âge, finalement, que réfléchir par soi-même, c'est une valeur ajoutée pour leur vie de tous les jours, et qu'en société, parler avec une personne qui réfléchit par elle-même, ça définit aussi la personne qu'ils sont, et donc voilà.
Ah je suis tellement d'accord avec vous, Nala, et merci de votre témoignage. Vous voyez dire « Ah oui, Corentin Célin, en écoutant Nala », mais au fond, c'est ça aussi le travail pédagogique, au fond. Hein. Aimer donner à réfléchir, en fait.
Bien sûr, mais le problème, c'est, je vois ça, et je comprends et j'approuve même largement ce que vient de dire Nala, mais le problème, c'est qu'on est ici et maintenant, hic et nunc, et on est avec des générations là, en ce moment, qui, comme nous, découvrent l'outil, et par rapport à des contraintes institutionnelles qui nous sont posées. Je m'explique. Je dois préparer des étudiants et des étudiantes à un concours dans lequel ils vont être classés par rapport à des évaluations écrites, classés les uns par rapport aux autres. On peut supposer, et moi je parle par définition, je pense qu'on est beaucoup dans le, on aime par définition et a priori nos étudiants au sens on a confiance en eux, on a de l'estime pour eux, mais sauf que si il y en a un ou plusieurs qui ont recours à l'IA sans qu'on le sache et que les autres ne l'ont pas, notre évaluation est faussée, donc le classement va être faussé, etc., etc. C'est ça le problème, c'est comment on adapte cette irruption à un cadre institutionnel qui n'est pas du tout adapté. Maintenant, bien sûr que si je comprends bien ce qu'a voulu dire Nala, dans 5, 10, 15 ans, avec des générations qui ont été formées à la source, ça ira. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est ça le problème.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, François Tadié, effectivement, parce qu'on est dans cette espèce de milieu du guet. Est-ce que ça veut dire aussi que ce qu'il faut revoir vite, c'est pas forcément la manière d'apprendre, mais c'est la manière d'évaluer, en fait, et y compris les concours, d'ailleurs, dont parle Corentin, pas seulement les devoirs sur table qu'on fait au lycée, mais est-ce que déjà, il faut se pencher sur cette question ? Il ne peut plus y avoir aujourd'hui de concours comme il y en a eu jusqu'à présent, par exemple. Il y a d'autres manières, probablement.
Il y a probablement d'autres manières, et la question, c'est effectivement, comme le disait Corentin, de se poser la question collectivement. Mm-hmm. Parce que personne ne peut décider tout seul du changement. Mm-hmm. Et on voit bien qu'on a besoin de prendre le temps collectif de se poser cette question de manière intergénérationnelle, mm-hmm. en se demandant comment est-ce qu'on réévalue, et on peut se le demander en médecine, en droit, au concours.
Mais je peux poser la question de la médecine. Effectivement, la première année, par exemple, c'est vraiment apprendre par cœur, apprendre des bottins quasiment l'un après l'autre. Et au fond, la question que poser en introduction, à quoi ça sert prend tout son sens désormais que l'IA est très développée, à quoi ça sert d'apprendre des jurisprudences quand on est étudiant en droit, etc. en fait.
Exactement, et donc à quoi ça sert d'apprendre par cœur ? Est-ce que c'est juste pour sélectionner ?
C'est le cas pour la médecine, on est d'accord.
Voilà, ouais. Et alors qu'en fait ce qui compte c'est d'être un bon médecin et de savoir des choses, mais de savoir les mettre en œuvre au lit du patient, etc. Donc on voit bien que la finalité des apprentissages se pose. Il y a différentes attitudes à travers le monde face à ça. Hein. Juste, dans le rapport, on a demandé aux ambassades de nous aider à savoir ce qui se passait. Par exemple, en Chine, le jour des concours, ils ont carrément interdit l'IA dans tout le pays.
Ouais.
D'accord.
Ils sont capables de couper les robinets, mais on est en Chine.
C'est particulier.
Voilà, c'est un peu particulier comme
aux États-Unis, il y a un étudiant qui est devenu start-upper qui a créé une start-up pour tricher, pour apprendre aux autres à tricher systématiquement.
OK.
Voilà, donc ça c'est un autre modèle.
Bon esprit. Bon esprit.
Et au Danemark, ils ont décidé d'autoriser l'utilisation de l'IA pour préparer un oral. Mm-hmm. Mais ce qui compte, c'est d'être capable de défendre son point de vue à l'oral.
Alors moi, je trouve ça intéressant, l'oralité, en fait. Est-ce que vous, Corentin, par exemple, vous vous dites, à terme, l'oralité, pourquoi pas ? Parce qu'après tout, si on l'a lu sur ChatGPT, mais qu'on l'a intégré, un étudiant peut être très très bon sur le Watergate et Nixon.
Alors, je pense que...
S'il est bête et méchant, il sera mauvais comme tout.
Ouais, alors je pense que comme beaucoup de mes collègues actuellement, je suis en train de préparer, on prépare nos planification sur l'année, nos programmations pédagogiques, on réfléchit à comment ça va se passer. Et effectivement, moi, un des grands problèmes qui se posent à moi là, pour cette année concrète, c'est que, par exemple, pour mon année d'Hippocagne, je commençais toujours par des devoirs maison, où en Hippocagne, j'étais protégé un peu plus de l'aide des parents, parce que, bon, généralement, en Hippocagne, on a affaire à des étudiants qui ne demandent pas forcément aux parents, etc., puis sur un niveau de compétence un petit peu plus élevé. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai vu la dernière année, le devoir maison me paraît à proscrire, en particulier sous la forme dissertation. Donc, ce qui veut dire que, très concrètement, hein, c'est un problème de prof très concret, est-ce que j'aurai assez de notes, parce que, voilà, est-ce que j'ai assez de notes fiables pour finir mon trimestre ? Et donc, effectivement, là, à l'heure de mes réflexions, mercredi 27 août, je pense que je vais peut-être revenir à quelque chose que j'avais pratiqué en début de carrière et que j'avais laissé de côté, c'est-à-dire l'interrogation orale en début de cours pour avoir un contact direct avec l'étudiant. En plus, en lui apprenant aussi, en développant la compétence de prise de parole, devant un public, etc.
Ça développe aussi d'autres compétences.
Compétences. Et donc, effectivement, moi, je me dirige, en tout cas, c'est mon choix personnel, hein, c'est pas vocation, et à préférer l'oralité qui pourrait remplacer pour des évaluations les devoirs maison parce que je serais plus confiant dans l'évaluation que je pourrais en faire et dans la relation de confiance avec l'étudiant.
S'il y a certains de vos élèves qui vous entendent, ils sont en PLS, je vous le dis. Corentin, c'est là. Est-ce que ça marche aussi pour les maths, ça, Lucie Jacquet-Malo ? Est-ce qu'on se dit, tiens, passer aussi une forme d'oralité, ça marche ou pas ? C'est plus compliqué, non, pour les humanités ?
Alors, ça marche sur une forme d'oralité, bien entendu. Ce qu'on travaille, en tout cas, une des compétences qu'on travaille très majoritaire et depuis le plus jeune âge en mathématiques, c'est la rigueur du raisonnement. Ouais. Et ça, en fait, des IA génératives ne sont pas capables de raisonner. Elles accolent des petits bouts de raisonnement avec des principes probabilistiques qui, en réalité, n'ont aucun sens entre eux. Donc, bien sûr, on peut augmenter l'oralité, mais je me permets juste de revenir sur la question de l'auditrice et notamment sur la responsabilisation des apprenants. Oui. Elle est très intéressante et, en réalité, il y a déjà des résultats de chercheurs, notamment de l'Université de Sherbrooke, qui ont produit une grille très intéressante d'analyse des usages de l'IA. C'est-à-dire, tout simplement, une grille de 0 à 4. 0, je n'utilise pas l'IA, et 4, j'utilise l'IA pour avoir produit de l'ensemble de mon devoir. Et si on arrête de voir l'utilisation de l'IA comme un péché presque religieux, mais plutôt qu'on responsabilise sur, moi j'ai utilisé l'IA à un degré 2 ou à un degré 3 qui est un degré intermédiaire, en fait on va beaucoup mieux l'utiliser et permettre à nos étudiants ou à nos apprenants de monter en compétences. Parce que c'est ce qu'on veut au final, c'est que les compétences qu'on souhaite acquérir soient acquises.
Est-ce que ça veut dire, François Tadé, qu'il faut un moment qu'on travaille tous sur la même base, donc la même IA, d'une certaine façon, parce que, alors des erreurs d'abord, il en existe, et puis il y a aussi comme manière de l'apprivoiser, si je puis dire, moi, l'un de mes exemples favoris, c'est Le Monde, qui est le premier journal à avoir passé un accord avec ChatGPT, et qui donc alimente son IA avec sa propre matière. Donc comment on est sûr d'avoir cette matière-là, et donc de pouvoir se fier à cette matière-là ? Est-ce qu'il faut désormais que l'éducation nationale, les universités, peut-être aussi les lycées, se disent, nous devons créer notre propre IA, en fait, et que chacun travaille sur un pied d'égalité, sur le même outil, ou pas ?
Alors, elles peuvent créer leur propre IA ou s'adosser à ceux qui savent
S'adosser forcément,
faire.
Oui, parce qu'on ne va pas subitement créer une... Mais j'entends ce que vous voulez dire.
Et il faut s'assurer qu'on s'adosse à des gens qui respectent nos valeurs, nos droits, etc. Donc, c'est un point important. Et qu'ils soient suffisamment pérennes. Parce que si l'entité sur laquelle on s'est appuyé disparaît le lendemain ou dans 5 ans, comment est-ce qu'on perdure ? Donc il y a quand même des questions stratégiques qu'on a essayé d'aborder dans ce rapport. Et assez fondamentalement, il va falloir qu'on prenne des décisions collectives et en même temps qu'on expérimente. La force des universités, c'est qu'elles ont des chercheurs de toutes les disciplines. non seulement en IA, mais aussi en droit, en psychologie, en sociologie, en économie et en médecine. Elles ont des étudiants qui vont vers tous les métiers. Elles ont un ancrage territorial, un réseau international et une mission de service public. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que l'université, si elle sait se transformer, peut transformer les usages de l'IA, non seulement pour ses étudiants, mais pour l'ensemble des territoires sur lesquels les universités sont implantées, et arriver dans une coévolution dans laquelle on choisira les IA dont on a besoin collectivement.
Mais on est d'accord que ça marche que si vous vous imitez tous, parce que sinon, effectivement, il y a déjà évidemment des différences de niveau d'une université à l'autre, etc. Là, ce sera pire, en fait. Donc, il faut que, soit c'est tout le monde en même temps, soit c'est raté pour tout le monde, en fait, non ?
Voilà, et donc nous, la proposition qu'on a faite, c'est qu'il y ait une coordination, une structuration au niveau national, voire au niveau européen, parce que c'est, comme, c'est en mutualisant à la bonne échelle que l'on peut faire face aux géants chinois ou américains.
Retour au standard avec Thomas qui nous attend à Rennes. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi j'aimerais revenir sur un point qui a été abordé tout à l'heure, c'était le fait qu'il y avait un apprentissage à plusieurs vitesses, ceux qui vont avoir la possibilité d'utiliser l'IA et ceux qui ne l'ont pas. Et en fait, moi j'ai une vision plus positive. Moi j'ai 30 ans, j'ai connu l'arrivée d'Internet à l'école et on avait déjà ces deux vitesses-là. Et il n'y avait pas de question d'empêcher les gens d'utiliser Internet pour autant. Et au contraire, je pense que il faut intégrer des cours, comme il a été dit, pour apprendre à utiliser l'IA, parce que c'est un outil qui est formidable. Si on sait effectivement ce à quoi il peut servir. Si on l'utilise comme moteur de recherche, c'est pas très écologique déjà, parce que ça
de toute façon, je suis bien d'accord.
Mais par contre, moi, je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'avais une plaque de cuisson qui marchait pas. J'ai pris une photo. J'ai quelques bases en électronique, je sais souder. Il a été capable de me dire, bah, c'est tel composant, telle couleur, voilà, celui-là, tu le changes, et ma plaque de cuisson refonctionne. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'apprends quotidiennement des choses nouvelles avec l'IA, mais il faut savoir l'utiliser. Sinon, effectivement, on ne peut pas... Si on se focalise que sur le négatif, comme c'est souvent le cas, de les jeunes vont l'utiliser pour faire leurs devoirs, ou je voyais un titre, c'était l'IA va peut-être corriger les copies du bac l'année prochaine. C'est toujours un angle d'attaque très ciblé quand même. Et on n'est pas sur toutes les opportunités que ça peut donner. C'est un professeur au jour le jour qui permet de découvrir des matières très facilement.
Alors on est d'accord, merci beaucoup. Pardon Thomas, pardon, je vous ai interrompu.
Oui. Ah non, c'était bon.
Eh ben super, merci beaucoup, merci pour votre témoignage. Alors bien sûr, qu'il y a évidemment moult usages en plus qui sont formidables, notamment savoir en hippocagne comment on utilise une plaque de cuisson, Corentin Célin, mais ça peut être important.
Je vais réfléchir à intégrer ça dans mon programme d'enseignement, mais je vais essayer.
Ce que je trouve extrêmement intéressant, effectivement, et c'est ce que vous disiez, François Taddeï, j'entends bien que l'IA produit, si on a posé la question à l'IA avant un devoir, peut servir de base à la discussion qui viendra après. Mais si on n'a pas la base, et la base de connaissances, de toute façon, cette discussion n'aura pas lieu, en fait. Et c'est là mon inquiétude, en fait. Quand on est capable, effectivement, de discuter de ce qui a déjà été écrit, parce qu'on sait déjà un certain nombre de choses, c'est exactement ce qui se passe dans une conversation comme celle qu'on a aujourd'hui, mais si on est vierge de tout, parce qu'on n'a pas les bases et qu'on a pris que, et j'ai presque envie de dire, dans la figure, ce que l'IA vous a recraché, comment on fait ? Comment ça marche ? Qui veut répondre à ça ? Lucie Jacquet-Malo, c'est pour vous.
Je vais bien me lancer. Merci pour cette question. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que, pour un enseignant, l'IA n'est qu'une modalité pédagogique parmi d'autres. Et donc, que comme toutes les autres modalités pédagogiques, il faut s'en servir avec parcimonie. Mais la seule différence avec les autres modalités pédagogiques, c'est qu'elle a créé une véritable révolution, elle est à disposition de tous, et sans aucun besoin de formation. C'est pour ça que, voilà, si on arrive à changer les choses, et effectivement, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, mais on va pouvoir avoir une utilisation de l'IA qui soit une modalité parmi d'autres. Et donc, ça n'empêchera pas d'avoir des moments qui soient déconnectés d'une IA. Et moins on voit l'usage, le recours à l'IA comme une faute ou comme une tentative de tricherie, et plus on va accepter ces moments déconnectés d'une IA pour dire là on a besoin d'acquérir des connaissances et là on a besoin de les mettre en application et là on va pouvoir se servir des IA. Et puis ensuite l'IA va nous permettre d'acquérir d'autres connaissances comme réparer des plaques de cuisson.
Oui, absolument.
D'autres sujets.
Pour reprendre l'exemple de notre auditeur et sa plaque de cuisson, ce que je trouve intéressant, c'est d'apprendre à résoudre des défis auxquels on est confronté dans sa vie. Ça peut être réparer sa plaque de cuisson, ça peut être de s'adapter au changement climatique, ça peut être plus ou moins simple. Et l'IA n'a pas toutes les réponses, mais elle peut nous aider à aller plus loin face à un monde qui est quand même toujours plus complexe et sur lequel on a besoin de résoudre des défis qui vont au-delà des seuls savoirs académiques classiques.
Absolument, et là-dessus, effectivement, on est d'accord, mais lorsque vous dites, ça veut dire que même le savoir académique désormais doit changer. En fait, vous avez transformé Corentin Samain en historien de beaucoup plus...
En historien des tables de cuisson. C'est ça le projet.
En beaucoup plus que simplement l'histoire. Mais je voudrais qu'on le prenne par l'autre bout, en fait, parce qu'il y a l'usage que les élèves en font, évidemment, puis il y a l'usage que vous en faites, vous, autour de cette table de l'IA. Et c'est Michel qui vous pose la question. Bonsoir, Michel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, j'entendais qu'on aborde la question du point de vue de l'utilisation par les élèves, mais on oublie de dire que ça peut être un formidable outil pour les enseignants que je suis.
Mm-hmm. Et pour vous êtes prof de quoi, pardon, Michel ?
Alors moi, je suis prof de sciences dans une école d'ingénieurs, donc c'est technique.
Ok. Et,
ça peut être un formidable outil pour gagner du temps à la préparation du cours, faire des plans, faire des quiz, faire des études des cas. Et je pense qu'il ne faut pas jeter tout d'un seul coup. Et l'intelligence artificielle... Pardon, je suis en train de marcher. C'est pas l'idéal.
Ah bah arrêtez-vous. Je voulais que je vous dise.
C'est vraiment un outil qui peut être... Alors, ça peut pas tout remplacer. Ça ne refait pas le cours à sa place, mais ça peut être un formidable gain de temps.
Mmh. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que c'est vous, Corentin, par exemple, vous l'utilisez ?
Oui, je me suis dit je vais pas mourir idiot. Donc j'ai commencé depuis plusieurs mois à essayer d'apprivoiser déjà l'outil, à voir à quoi ça pourrait servir. Moi, je suis très frappé déjà par l'évolution très rapide de l'outil. Enfin, j'allais dire vraiment là en tant que enseignant, consommateur de l'outil, utilisateur de l'outil. Je suis très frappé par par la progression fulgurante entre les différentes évolutions, les différents modèles de chaque...
En fait, voilà. Chaque jour, un peu plus.
Ah oui, mais l'amélioration est vraiment... Quand on lui fait faire des tâches en particulier, par exemple, Michel parlait d'aider à faire des plans, je veux dire, le progrès vraiment en quelques mois est stupéfiant. Mmh. Et donc, effectivement, de toute façon, je rejoins Michel et je rejoins l'auditeur précédent. On va pas arrêter la mer avec un petit doigt. C'est-à-dire que c'est là, ça progresse.
Et surtout, on n'a pas envie d'arrêter la mer.
Voilà. Mais nous, en tant qu'enseignants, ça nous pose une question. C'est-à-dire que là, on a vu tout à l'heure par rapport au qu'est-ce que je demande aux étudiants, comment j'évalue, etc. Mais il y a une question qui est peut-être encore plus angoissante parce que plus existentielle, c'est qu'est-ce que moi je peux apporter en plus, comment je vais me situer par rapport à cet outil qui paraît, même si j'ai bien compris que c'est pas exact, etc., mais qui paraît avoir toutes les réponses, comment moi je me réinvente en tant que professeur et à quoi je vais servir? Et ça, c'est une question qui est extrêmement angoissante. Alors, excitante, mais angoissante.
Et alors, je trouve cette question géniale, moi. À quoi je vais servir, François Taddeï, honnêtement ? Et alors, c'est vraiment à quoi ça sert d'apprendre, puisque je suis à portée de clic, et donc à quoi vous servez, Corentin, c'est là ? Les sortir.
La dernière chose qu'on apprendra d'un être humain, c'est à devenir un être humain.
Ouais.
Et à grandir en tant qu'être humain.
Non, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que effectivement, on laisse pas son cerveau, on pose pas son cerveau avant de taper sur son clavier, quoi. Mais c'est tout ça qu'il faut apprendre, en fait.
C'est très clair. Mais
je l'utilise toujours.
Pour donner un exemple que les enseignants peuvent utiliser, nous, au Learning Planet Institute, on a développé une IA sur des financements du ministère de l'Enseignement supérieur pour aider les enseignants qui veulent enseigner le développement durable, alors que c'est pas leur discipline de départ. Et donc, ils ont leur cours de l'année dernière, et on a développé une IA qui a lu toutes les publications scientifiques sur le développement durable et qui peut vous prendre votre cours de l'an dernier et vous proposer des exemples pour illustrer le cours de l'année prochaine qui sont issus de publications scientifiques répertoriées sur le développement durable.
Alors voilà, et partant du principe, effectivement, que l'IA dit vrai et surtout qu'il n'y a pas de biais.
Mais elle vous donne les sources. Là. Vous allez tout pouvoir vérifier ce que veut faire un bon enseignant ou un bon chercheur.
La question que je me pose, moi, puisque de toute façon, effectivement, si on développe à grande échelle l'IA dans les universités en utilisant utilisant effectivement ChatGPT, Mistral, Anthropic, Gemini et d'autres, les Américains, pour la plupart, ce sont des Américains, par Mistral, ils ont un biais, forcément, puisqu'ils ont été biberonnés, si je puis dire, ce sont des IA qui ont été gavés avec un biais états-unien. Est-ce qu'on peut du coup leur faire confiance, ou est-ce qu'on se dit que, précisément, si on veut que ce soit vraiment utilisé à la fac, il faut les biberonner à la sauce française et européenne, enfin je veux dire sortir de ces biais-là. Le réchauffement climatique, c'est un très bon exemple, parce que qui sait, le jour où ChatGPT nous dira que le réchauffement climatique, il y en a qui y croient, mais des fois on dit que c'est pas vrai, c'est demain quand même également. Hein.
Tout à fait, sur l'exemple de François, il y a quelque chose qu'il a mentionné qui est extrêmement intéressant, c'est... Ils ont développé une IA qui fait appel à des sources qui ont été vérifiées, validées. Et en réalité, le problème avec l'utilisation de ChatGPT, c'est la fiabilité des réponses et la sécurité des données. Et il y en a d'autres problèmes, notamment la frugalité écologique qui n'est pas du tout au rendez-vous.
Exactement.
Mais si on s'attarde sur la fiabilité des réponses et la sécurité des données, ce qu'on cherche à construire aujourd'hui avec le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Agence de mutualisation des universités, c'est une IA générative qui soit souveraine, qui soit fiable et donc qui puisse faire appel à des sources qui soient claires. Et en fait, pour l'enseignant, ça va pouvoir lui permettre de gagner, allez, on va dire, 80 à 90% de son temps de préparation de cours, parce qu'il va poser des questions à un IA qui va être biberonné avec ses sources à lui. Donc l'enseignant reste le détenteur du savoir, le détenteur des ressources, puisque c'est lui qui sait, par définition d'un enseignant, mais par contre, il va pouvoir utiliser l'IA pour aller beaucoup plus vite sur la génération de questions, sur la génération de devoirs, sur les processus de différenciation qui prennent énormément de temps pour s'adapter aux élèves à besoins spécifiques. Donc, ces IA-là, elles vont permettre d'être meilleures sur ce domaine-là. Mais on a besoin de les développer, et c'est ce qu'on fait en ce moment avec le ministère.
Et effectivement, les développer vite, est-ce qu'on est déjà en retard ou pas ?
Je ne pense pas qu'on soit en retard et ces IA de toute façon vont atterrir sur un pilote, hein, le ministre les annonçait le 12 juin, elles vont atterrir sur un pilote qui aura lieu d'ici septembre-octobre et le but du jeu c'est de passer à l'échelle le plus rapidement possible d'ici 6 mois, 1 an. Donc en réalité nous allons développer ces IA pour les établissements d'enseignement supérieur plus rapidement que ce qu'on pensait. Et pour ça c'est un partenariat avec Mistral AI, bien entendu, qui se fera.
Et Mistral qui est donc l'intelligence artificielle made in France. Juste avant de retourner au standard, Corentin, il y a Eric sur WhatsApp qui vous suggère en fait pour vos cours. Il dit qu'il faudra de toute façon changer l'enseignement et puis les notes surtout qui ne pourront pas être sur 20 sans règle, mais instaurer autre chose comme des niveaux. Donc compris, assimilé, non assimilé, etc. Il vous donne quelques pistes.
Oui, alors il y a une autre solution, mais là je parle par rapport à un enseignement, le mien qui est assez spécifique, puisque donc avec la perspective des concours, c'est effectivement une piste aussi que à laquelle je réfléchis, qui est de se dire les anciens devoirs maison qui étaient notés et évalués ne sont plus évalués par une note chiffrée, mais sont évalués simplement par une lettre dans une perspective de progrès et de niveau acquis, supprimant l'incitation de la note qui pousse éventuellement à la tricherie, etc. Effectivement, ça peut être un moyen de neutraliser ce biais de tricherie et d'aller vers quelque chose qui soit uniquement axé sur l'apprentissage et un niveau d'apprentissage. Sauf que quand même, ça suppose qu'on arrive, si on reste dans notre optique de concours, mais pour combien de temps, il faut quand même pouvoir garder des évaluations écrites sur table où on soit sûr qu'il n'y ait pas d'IA. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui apparaît compliqué. Voilà. De mon point de vue.
J'ai perdu la question, je suis en train d'essayer de la retrouver, mais il y a un prof de philo qui nous a envoyé un message tout à l'heure en disant de toute façon qu'une question de philo posée dans une IA ne trouve jamais au fond sa réponse, parce que tout est dans la manière effectivement de poser la question pour que le devoir soit fait derrière. J'imagine qu'il y a des matières qui sont rétives en fait à quelque chose qui a du sens à l'intérieur de l'intelligence artificielle. S'il nous écoute cet auditeur, j'aimerais bien qu'il nous appelle sur cette histoire de philo. Je voudrais d'abord qu'on écoute Bruno. Il est en Seine-et-Marne. Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Ben moi, je suis employeur, j'ai 50 ans, et j'aimerais bien que les universités forment mes salariés, mes jeunes diplômés, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est moi qui le fais. Et c'est un formidable outil pour faire des synthèses, pour vérifier l'adéquation d'une réponse à un cahier des charges, pour gérer des masses de données importantes. Et c'est même un outil de créativité qui permet d'impulser une création aussi bien écrite que visuelle. Et tout ça, en fait, ils sont pas du tout, je trouve, éveillés sur ces questions-là. Ouais. Mm-hmm.
Merci beaucoup, Bruno, c'est une vraie bonne question, parce que c'est aussi à ça que ça sert, en fait, d'avoir accès et de savoir utiliser l'intelligence artificielle à la fac. On en aura besoin, évidemment, dans la vie de tous les jours derrière, hein. C'est ça l'idée. François Taddeï.
Oui, tout à fait. Et par exemple, un médecin va être augmenté par l'IA pour plus rapidement poser un diagnostic, analyser une radio. Et il faut évidemment qu'il ait été formé pendant ses études. Pour donner un exemple d'IA qui ont été développés par des jeunes collègues, par ailleurs anciens élèves de chez nous, c'est des IA qui aident les médecins à avoir une discussion aussi constructive que possible et aussi empathique que possible avec un patient. Mmh. Et ils ont le droit à l'erreur face à une IA qui les écoute et qui simule le patient.
Ça me terrorise un peu de demander à une IA comment être plus empathique avec un être humain.
C'est pour ça que c'est super peur. Donc, si les médecins étaient parfaitement empathiques aujourd'hui, ça se saurait aussi.
Ah oui, ça, on est d'accord.
Donc, l'idée, c'est que, en fait, les médecins ont peur de mal faire. Et il faut leur donner un terrain d'entraînement où ils peuvent se tromper et on peut analyser leurs réponses, on peut débriefer avec une IA, puis avec un humain, des limites et de comment est-ce qu'ils progressent, est-ce qu'ils ont dit des choses suffisamment empathiques ou pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut tester ces choses-là.
J'ai retrouvé le message sur la philo qui disait, j'ai testé différentes IA, il me semble pas possible de faire un bon devoir de philo si on ne sait pas poser les bonnes questions, ce qui est le rôle de la philo. Certes, si les exercices sont très très marronniers, l'IA effectivement le fait très très bien. Donc les professeurs de philo devraient travailler sur l'articulation de la réflexion demandée. Les meilleurs IA se plantent dès lors qu'on sort un peu des clous et des truismes. Qu'est-ce que vous en pensez, Lucie Jacquet-Malo?
Alors, la philo n'est pas du tout mon domaine.
Ah ben ça, j'entends bien. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Entre vous, qui êtes prof de maths, alors il y a un côté très terre-à-terre dans les mathématiques et l'inverse, effectivement, dès qu'on est dans les humanités et encore plus sur la philo.
Absolument, mais je rejoins tout à fait notre collègue qui en fait révèle quelque chose de très simple sur les usages de l'IA. C'est que, en tant qu'enseignant, si on pose une question à laquelle l'IA peut répondre très facilement, c'est soit qu'on n'a pas choisi la bonne modalité pédagogique, soit que notre question n'était pas forcément pertinente. Et alors, en philo, là où ça se voit tout de suite et très très bien, il y a des matières et des disciplines dans lesquelles c'est peut-être un petit peu plus subtil.
Mais c'est le cas dans toutes les humanités, c'est le cas aussi, Corentin, en histoire.
Bien sûr, j'imagine que ça doit être le cas.
Alors moi, je vois surtout la différence entre la dissertation et le commentaire, c'est-à-dire que le commentaire de document qui appelle à une forme de finesse d'esprit est beaucoup plus difficile pour l'IA. Voilà, autant une dissertation, ça va être facilement reproductible, c'est beaucoup moins facile pour le commentaire de document.
Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, puisque, comme on le dit, effectivement, il faudra au fur et à mesure former les professeurs, les former tous à l'université, au lycée, au collège, etc. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'une réticence ou d'une impatience? En fait, peut-être que vous le savez, vous, ça, François Taddeï, vous avez eu des contacts avec tout le corps enseignant. Il y a une impatience ou une réticence, une crainte?
Il y a tout ça à la fois. Il y a des gens qui sont déjà enthousiastes, il y a des gens qui ne sont pas encore et qui ont peur. Mais en même temps, il y a un besoin de formation qui est quasiment universel, au sens où tout le monde dit que, pour l'instant, ils bricolent et ils sont débrouillés chacun. Côté,
ouais, comme Corentin,
il y a besoin de créer
seul, en fait,
les conditions de monter en compétence de l'ensemble de la communauté enseignante.
Comment ils vont être formés, ces profs, c'est-à-dire l'un après l'autre? Enfin, je veux dire, ça risque d'être aussi
Les propositions qu'on fait dans le rapport, c'est de créer des dispositifs qui puissent se décliner largement. Donc, par exemple, à Paris-Saclay, il y a déjà des formations qui seront ouvertes à tous les étudiants, mais on peut le faire pour tous les enseignants également.
Lucie Jacquet-Malo.
Oui, dans le cadre de l'alliance qu'on a montée justement avec Mistral, en fait, l'idée c'est aussi un prétexte pour discuter des cas d'usage et pour discuter entre enseignants de comment on pourrait faire. Et on arrive à se former par pair, en fait, c'est-à-dire les uns les autres, parce qu'on a des enseignants-chercheurs en informatique qui peuvent nous former aux bases de l'IA, parce qu'on a des enseignants-chercheurs en philosophie qui peuvent nous former aux impacts des IA sur la société. Donc on arrive à se former, mais il faut créer des communautés d'apprenants, d'étudiants et des communautés d'enseignants pour discuter de cette question-là et pour mieux être formé. Et je rejoins tout à fait notre auditeur, on est en train de le faire, mais c'est un processus qui est quand même assez long, puisqu'on a besoin d'avoir une vraie réflexion sur la question, et c'est ce qui est en train de se faire en ce moment.
Corentin Salin, pardon, il nous reste 20 secondes.
Non, mais je crois que tout a été dit.
Moi, je voulais savoir, vous, le prof, en termes de niveau, en fait, est-ce que de toute façon, vous sentez qu'il va falloir trouver quelque chose dans la pédagogie, parce qu'en effet, parce que les gamins sont très sur ChatGPT ou ailleurs, le niveau dans votre cours a baissé. Est-ce que vous le sentez, ça, ou pas, ces dernières années?
Non, je dirais pas ça, mais de toute façon, ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire que je sens que je dois changer quelque chose parce que cet outil est révolutionnaire et que face à une révolution, il faut s'adapter ou disparaître. Donc voilà, c'est ce que je ressens.
Chez vous, je crois que j'ai lu François Taddeï que la révolution était de l'ordre de l'arrivée de l'imprimerie. C'est dire que ça. Voilà, c'est assez large. Je vous remercie tous les trois chaleureusement. Merci à tous pour vos très nombreuses questions. Joyeuse rentrée pour bientôt, pour les profs, pour les élèves, c'est pour lundi. Et à tout de suite.